BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Maurice.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Enfin, l'émission ne change pas, mais regardez, on a un nouveau décor, nouveau plateau et nouvelle identité sonore aussi. Ça vous plaît, Jeanne ?
Ah, j'adore. Personnellement, ça me met de très bonne humeur.
On va continuer à parler de tout ce qui peut vous rendre plus heureux au boulot, bien sûr, toutes les semaines, tous les week-ends sur BFM Business. Au programme, aujourd'hui dans cette émission, à l'occasion de son 35e anniversaire, le parc Astérix qui recrute 2500 saisonniers cette année et participe au dynamisme de la région des Hauts-de-France. Nous serons avec le DRH du parc pour en parler. Vous nous posez aussi vos questions et on y répond dans 10 minutes avec nos avocats en droit du travail et avec vous, Jeanne.
Oui, Erwan, aujourd'hui, on répond à une question sur les arrêts maladie. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr.
Comment lutter contre l'absentéisme ? Ce sera l'objet du meeting avec nos invités dans quelques minutes. Et puis en fin d'émission, Jeanne, on va vous retrouver. Vous allez nous sensibiliser au burn-out.
Exactement, je vais vous proposer 3 solutions pour lutter contre le burn-out.
Merci d'être avec nous. C'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, le DRH de la semaine.
Bonjour David Merafina.
Bonjour.
Merci d'être sur le plateau de BFM Business. Vous êtes le DRH du parc Astérix. En quelques chiffres, 2,8 millions de visiteurs, 2500 salariés, 50 attractions et spectacles. Grand producteur d'emplois dans l'Oise, hein, et les Hauts-de-France. Vous recrutez cette année, peut-être plus encore que les années précédentes, vous allez nous dire, mais 2500 saisonniers, donc là, j'imagine que les recrutements ont commencé. C'est pour la haute saison, c'est quoi ? Ça va être pour cet été, essentiellement ?
Alors, on a plusieurs phases de recrutement.
Ouais.
Une première phase qui regroupe à peu près un peu plus de 1000 collaborateurs pour l'ouverture, qui a lieu dans quelques jours. On ouvre le 30 mars.
Ah oui, donc là, c'est ce week-end.
C'est ce week-end.
Très bien.
Et ensuite, on ajoute des effectifs en fonction de nos événements. On a bien évidemment la saison juillet-août, qui est un très fort moment, mais ensuite également Peur sur le Parc, qui correspond à la période Halloween, et puis Noël gaulois, où là, c'est à chaque fois des recrutements d'environ 500 collaborateurs.
Donc
c'est ce qui fait qu'on arrive aux 2500.
Ah, il y a quand même plusieurs temps forts à chaque fois. Là, vous avez atteint l'objectif que vous étiez fixé ?
On est prêt pour l'ouverture.
Ouais.
D'ailleurs, on a fait une pré-ouverture le 20 mars pour nos salariés et nos partenaires qui nous accompagnent tout au long de l'année. Donc, on est en place.
Donc sur des métiers très différents, hein, on va détailler un petit peu ça, mais l'hôtellerie, la restauration, l'accueil, la vente, la maintenance, les spectacles, donc des profils de saisonniers très, très différents. Vous arrivez donc à trouver ces différents talents, ces petites pépites. Vous les formez aussi pour ceux qui peut-être sont assez juniors ?
Alors c'est l'intérêt du parc Astérix, c'est-à-dire que vous pouvez postuler en étant qualifié, mais vous pouvez postuler sans avoir aucune qualification. Et là, le parc Astérix vous forme à votre métier. Alors, soit avant l'embauche, il y a des dispositifs spécifiques avec France Travail du type préparation opérationnelle à l'emploi, mais également vous forme à votre arrivée au parc pour vous permettre de prendre vos postes dans les meilleures conditions.
Ça dure combien de temps, ces formations ?
Alors, tout dépend du type de métier, mais ça peut durer sur plusieurs semaines, plusieurs mois, ou sur plusieurs jours, en fonction de la complexité du métier à opérer.
On parle beaucoup des problèmes qui font qu'aujourd'hui, les saisonniers ont du mal à répondre aux offres. Il y a notamment le problème du logement. On veut bien travailler l'été ou pendant les vacances, mais on le fait si on peut se loger et si ça coûte pas trop cher. Est-ce que vous êtes saisi aussi, alors côté RH, mais peut-être plus largement, au niveau de la direction du parc Astérix, de cette question-là pour permettre justement aux saisonniers, mais qui ne seraient pas forcément du département, de venir travailler au parc ?
Alors aujourd'hui, notre recrutement, il est essentiellement local.
Oui.
Donc le département de l'Oise et puis les départements limitrophes. Effectivement, le logement, c'est une chose auquel on pense, car vous avez raison, ça permet d'élargir notre zone de recrutement. Donc on commence à y travailler pour, je l'espère, dans l'avenir, proposer une solution de logement à nos collaborateurs.
Mais dans l'immédiat, donc vous n'avez pas forcément besoin, vous arrivez à trouver suffisamment de profils à proximité.
Tout à fait.
Oui.
Aujourd'hui, encore une fois, avec un recrutement local, on arrive à pourvoir nos postes.
C'est quoi le profil type du saisonnier ? Ça va plutôt être un public jeune ?
Alors, ça reste un public jeune, et encore une fois, on peut avoir différents types de profils de saisonniers, que ce soit sur des demandeurs d'emploi, mais également on propose pas mal de jobs étudiants. Donc, on a véritablement tous les types de profils dans nos effectifs.
On peut encore postuler ?
Bien sûr qu'on peut encore postuler. Et il nous reste des postes à pourvoir, que ce soit effectivement en contrat saisonnier, notamment sur la restauration. On sait que c'est un métier qui est un petit peu en pénurie en ce moment, et notamment sur les hôtels, en salle. Mais on recrute également sur la maintenance, en saisonnier, en contrat de travail à durée indéterminée. Donc, il ne faut pas aller, faut pas hésiter à aller sur notre site de recrutement pour voir les offres qui restent disponibles.
On parlait du logement. Il y a aussi la question des salaires aujourd'hui, notamment dans l'hôtellerie et la restauration. Donc, c'est des métiers que vous proposez pour des saisonniers, mais pas que, sur aussi des contrats à durée indéterminée, comme vous venez de nous le dire. Là-dessus, vous avez aussi un effort à faire de votre côté pour augmenter les rémunérations.
Alors, on fait un effort. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a une grille de rémunération qui commence au-dessus du SMIC. Donc, lorsque vous rentrez au parc, vous êtes payé au-dessus du SMIC. Et en fonction des métiers, on peut appliquer des grilles de rémunération spécifiques. Vous citez le cas de la restauration. Mm-hmm. Où on a une grille de rémunération spécifique pour attirer des talents.
Il y a possibilité de rester ou pas quand on est saisonnier? C'est vrai que généralement, il y a quand même un turnover qui est propre aussi à ce type de contrat. On a besoin de certaines personnes pour une durée limitée et dans un temps très spécifique. Est-ce que derrière, il y a possibilité de transformer l'essai et d'avoir un CDD plus long, d'avoir un CDI?
Alors, on peut transformer l'essai de différentes façons. La première façon, c'est effectivement de revenir d'une saison sur l'autre. Et donc, chaque collaborateur, à la fin de la saison, se voit établir un bilan individuel avec son manager. Et si tout va bien, d'un côté comme de l'autre, on fait directement partir une promesse d'embauche pour la saison suivante. Donc, on sécurise le collaborateur. Et bien évidemment, lorsque nous avons des postes à pourvoir en CDI, notre vivier principal, c'est nos saisonniers.
Ça s'est déjà présenté,
oui. Oui. On ça a énormément de saisonniers qui ont été convertis en CDI, notamment, je pense à la restauration, sur les hôtels, dans la mesure où, même lorsque le parc est fermé, on peut avoir une activité qui est liée à de l'événementiel. Mm-hmm. Et donc là, on a besoin de collaborateurs permanents.
Il nous reste un peu plus d'une minute pour mieux savoir quel manager et DRH vous êtes. David Merafina, je rappelle, vous êtes DRH du parc Astérix. C'est Marianne qui vous amène tout de suite la boîte du DRH. C'est votre boîte pendant un peu moins de deux minutes. Et je vous invite à piocher un premier papier, c'est une phrase à compléter, pour essayer de savoir un peu mieux quel DRH vous êtes. Je vous laisse nous la lire.
Dans ma boîte, la semaine de 4 jours, c'est...
Ah oui, parce qu'on en parle beaucoup dans cette émission. Est-ce que c'est approprié à une activité comme celle que vous proposez dans un parc d'attractions?
Alors, c'est totalement approprié.
Oui.
Et notamment en termes d'amélioration des conditions de travail. Là où sur nos activités opérationnelles, on était sur une planification 5-2, c'est-à-dire 5 jours travaillés, 2 jours de repos, on est passé sur pas mal de secteurs à une planification 4-3.
Oui.
Donc, 4 jours de travail, 3 jours de repos.
Ce qui donc permet... dans l'administratif ou pas seulement?
Alors plutôt sur la partie opérationnelle,
oui.
Dans la mesure où ça permet effectivement de mieux concilier un équilibre vie professionnelle, vie personnelle.
Et en termes de justement ressources humaines, gestion du personnel, c'est pas trop compliqué?
Non, c'est non. Juste un exercice de planification auquel nos managers se plient et se prêtent volontiers.
Donc vous allez le généraliser?
C'est quelque chose qui est déjà en vigueur sur la plupart de nos effectifs.
D'accord.
Opérationnels.
Il nous reste encore quelques secondes. Je vous laisse piocher peut-être un dernier papier. Une autre phrase à compléter.
Dans ma boîte, je refuse de m'occuper de...
Ah oui, quand on est DRH, parfois on a envie de s'occuper de tout.
Non, lorsqu'on est DRH, on s'occupe des collaborateurs.
Oui.
Clairement.
Il y a des choses peut-être que vous déléguez, vous dites ça, je m'en occupe pas.
Pas véritablement. Mmh. Encore une fois, l'idée c'est d'avoir un service pour l'ensemble de nos collaborateurs en termes de conditions de travail, d'écoute, de façon à ce qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes.
Merci d'avoir joué le jeu, David Merafina, DRH du Parc Astérix, et d'avoir été avec nous dans cette émission. Tout de suite, on appelle notre avocat, Jeanne.
Et on joint tout de suite aujourd'hui Virgile Puyot, avocat associé du cabinet Winston & Strawn. Pour répondre à cette question, Virgile, je soupçonne un salarié de prendre des arrêts maladie de manière abusive ou fictive. Comment puis-je le vérifier?
Si un employeur a des doutes sur le bien fondé de l'arrêt de travail d'un de ses salariés, il peut faire pratiquer une contre-visite médicale. Le médecin contrôleur se rendra alors au domicile du salarié sans avoir à le prévenir, et s'il estime l'arrêt de travail injustifié, il pourra ordonner la reprise du travail. L'employeur, quant à lui, pourra cesser le versement d'indemnités complémentaires. Il faut toutefois savoir qu'un arrêt de travail injustifié ne peut constituer une cause de licenciement.
Merci Virgile Puyeux, avocat associé du cabinet Winston & Strawn. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur l'adresse happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le meeting.
Et le sujet qu'on a décidé d'aborder cette semaine dans Happy Boulot dans le meeting, c'est celui de l'absentéisme. Comment régler ce problème qui gagne du terrain, y compris chez les cadres? Et ça, c'est une nouveauté. On va essayer d'apporter des réponses avec nos deux invités que j'accueille tout de suite. Gabrielle Baskin, bienvenue.
Merci.
Vous êtes directrice du conseil chez Stimulus Group Human and Work, cabinet spécialisé dans la santé psychologique au travail. Et avec nous également, Noémie Marciano, bonjour.
Bonjour.
Directrice assurance de personnes et avantages sociaux chez WTW, courtier qui assure notamment la gestion en santé prévoyance de plus de 2 millions de bénéficiaires. Alors, vous avez sorti votre cinquième baromètre sur l'absentéisme dans le secteur privé. Jeanne Spicarolène, on va voir avec vous ce qui en ressort dans les grandes lignes.
Oui, alors première chose, l'absentéisme est en hausse dans le secteur privé et même de 35% depuis 2019. En 2022, le taux d'absentéisme a atteint 5,3%. Alors si on regarde dans le détail, les femmes sont un peu plus nombreuses. Le taux d'absentéisme chez les femmes s'élève à 6,3% contre 4,8% pour les hommes. On est plutôt aussi sur le profil de seniors. Les 60-70 ans ont un taux d'absentéisme de 8%. Mais les moins de 40 ans sont aussi de plus en plus touchés, entre 15 et 17% de hausse en un an à cause de l'explosion des arrêts maladie. Enfin, les ouvriers et employés sont traditionnellement touchés par l'absentéisme, mais surprise, il accélère désormais chez les cadres et professions intermédiaires, plus 14% sur un an. En 2022, 30% des cadres ont connu au moins un arrêt maladie.
Merci Jeanne pour ces quelques données qu'on met en lumière, donc qui proviennent de votre baromètre chez WTW que vous avez fait donc pour cette année 2024 avec les données donc de l'année dernière. On va revenir un petit peu plus dans le détail avec vous sur tout ça. J'aimerais d'abord qu'on reparle de ce sur quoi Jeanne vient de terminer. Les cadres, ils sont de plus en plus absents. C'est une tendance qui est assez nouvelle. Vous l'observez dans votre baromètre, comment est-ce qu'on peut l'expliquer?
Alors effectivement, c'est un baromètre qu'on a construit avec méthodologie sur une base de données qui est assez importante, hein. C'est des centaines de milliers de salariés qu'on observe, et on observe cette tendance depuis 2019, croissante effectivement, qui concerne plus non seulement les ouvriers et les employés, mais également les cadres. Quand on regarde l'absentéisme, ce qui est important, c'est de regarder les indicateurs qui vont nous permettre de comprendre pourquoi l'absentéisme est en hausse.
Oui.
Et quand on regarde précisément chez les cadres, c'est la prévalence, c'est-à-dire en fait le taux de recours à un arrêt de travail qui est important chez les cadres. Bah, on a de plus en plus de cadres qui s'absentent au moins une fois dans l'année. C'est ce qu'on observe depuis 2019, et cette tendance, elle est continue. Alors, on l'a fortement observé pendant les années Covid 2020-2021. Mm-hmm. Là, j'ai des chiffres tout frais sur l'absentéisme de 2023. On a un taux de recours qui est également important, un petit peu moins que ce qu'on a pu observer en lien avec les vagues de Covid, mais on a quand même un taux de prévalence qui est important.
Mais comment on l'explique? C'est qu'il y a un mal-être au travail? C'est qu'on est plus malade? Ou c'est qu'on s'autorise plus justement à s'arrêter quand on est
Alors, c'est une excellente question. Le pourquoi on est malade, ça c'est des informations sur lesquelles on n'a pas forcément effectivement
accès.
Pour autant, on publie des baromètres et on interroge les salariés pour comprendre un petit peu les motifs de leur absence. Et il y a des sujets qui reviennent, comme celui de l'engagement, comme celui du sens au travail, comme celui de l'intégration quand je suis nouveau salarié dans une entreprise. Donc on a beaucoup de sujets comme ça qui expliquent ce manque d'engagement, peut-être ce manque de sens qu'on peut adresser.
Gabrielle Baskin, cet signal faible qu'on a avec les cadres, c'est un indicateur qui peut-être peut laisser penser que, je sais pas, en termes de management, en termes de bien-être au travail, il y a des soucis qui sont en train de se réveiller?
Alors, il peut y avoir tout un tas de motifs, effectivement, pour lesquels les salariés peuvent être amenés à se mettre en arrêt maladie. Chez Stimulus, on accompagne les salariés sur leurs conditions de travail. On accompagne les entreprises à prendre soin de leurs salariés, de leurs conditions de travail et de leur santé mentale. Donc, toutes les réponses, effectivement, que moi, je vais pouvoir vous apporter, c'est plutôt en lien avec la santé mentale.
Mm-hmm.
Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a une réelle prise de conscience de cet enjeu qui, finalement, réunit des enjeux tant humains.
Mais de la part des directions ou des salariés?
De la, Alors, de la part des deux, oui, et de la part des directions, réellement, on a des entreprises qui ont vraiment conscience de l'enjeu humain, que ce soit économique, médiatique, et ils ont une certaine maturité sur les problématiques collectives. Vous avez évoqué le management, vous avez évoqué d'autres sujets. Il y a une certaine maturité sur le sujet, mais ensuite, c'est la place, finalement, de la santé mentale en entreprise qui est plutôt questionnée. C'est comment est-ce qu'on se saisit de ce sujet alors que il coexiste en parallèle d'autres sujets qui sont des enjeux plus à court terme, j'aurais envie de dire, des enjeux plus business. Et c'est là la difficulté.
On va essayer de regarder peut-être un autre public, c'est les jeunes. Là, pareil, je me penche sur votre baromètre, c'est les 20-29 ans. On note un absentéisme qui explose, plus 15% sur l'année. C'est aussi important chez les 30-39 ans. Qu'est-ce qui se passe auprès de ce public ?
Alors, déjà, je vais relativiser par le fait que les jeunes ont un taux d'absentéisme intrinsèque qui est moitié moins important que celui des populations de plus de 40 ans. Donc déjà, effectivement, on constate pour autant une augmentation dans les chiffres 2022. Donc on a une vague Covid qui explique cette augmentation, mais on a aussi des jeunes qui s'absentent et qui hésitent moins à s'absenter
quand ça va pas.
Quand ça va pas, alors qu'ils pouvaient avoir des hésitations par le passé. Et donc, tous ces sujets-là, ce sont des sujets, effectivement, sur lesquels les entreprises peuvent... il faut qu'elles adressent ce sujet-là, qu'elles comprennent, qu'elles se comparent par rapport à d'autres entreprises et pour infléchir cette tendance. Mais c'est une réalité.
Ouais. Gabriel Baskin, sur justement cette population, les salariés, les plus jeunes, vous notez aussi un phénomène qui est en train d'exister, de se développer ?
Alors, je rejoins totalement Noémie. On prête souvent aux jeunes de nouveaux besoins tels que des besoins de flexibilité, des besoins de sens au travail, des besoins
mais qui amènent aussi des évolutions sur la semaine à 4 jours, sur le télétravail. Ça vient souvent des jeunes en réalité.
Tout à fait. Et en même temps, je ne suis pas sûre que ce soit des attentes qui soient propres aux jeunes. Je me demande si finalement ce n'est pas qu'ils s'autorisent à poser des limites plus tôt, plus vite ou à exprimer leurs besoins plus facilement, plus fort que
C'est ce qui fait que les lignes bouge aussi dans les
exactement,
entreprises.
Exactement, tout à fait.
Mais donc, sur ce public, sur les trentenaires, il y a un phénomène aussi, comme le disait Noémie, de peut-être avoir plus de facilité à dire « là, je m'arrête quand ça ne va pas bien ».
Oui, il me semble, en tous les cas. Quand on rencontre des salariés en entreprise ou quand ils appellent notre ligne de soutien psychologique, effectivement, ils expriment beaucoup plus nettement ce qu'ils sont capables d'accepter et ce qu'ils ne souhaitent pas accepter.
On pose ses limites. Oui. Comment est-ce qu'on inverse la vapeur alors ? Il faut travailler quoi ? Sur l'engagement, sur la fidélisation, le partage de la valeur ? On en parle beaucoup dans cette émission. L'engagement au travail, donner du sens, mettre en avant les valeurs de l'entreprise. C'est ça aussi qui va faire qu'on va peut-être être moins absent, au-delà bien sûr des maladies. Quand on a une grippe, eh ben, on ne va pas travailler. Mais se sentir mieux dans son travail.
Alors, tout à fait. Il y a des mesures qui peuvent être de l'ordre du collectif. Donc là, et les entreprises sont assez matures sur le sujet. Tout ce qui relève de la qualité de vie et des conditions de travail, les entreprises sont assez armées. En revanche, les motifs d'absentéisme ne sont pas que professionnels. Et en agissant uniquement sur le collectif, on ne va adresser qu'une partie du problème. Si on regarde, il peut y avoir aussi des problématiques d'ordre individuel et qui relèvent soit de la sphère personnelle, soit de la sphère professionnelle. Et quand on en vient aux problématiques qui relèvent de la sphère personnelle, on peut remarquer une certaine frilosité finalement à adresser ces sujets en entreprise, alors que l'entreprise peut déployer des dispositifs d'accompagnement pour les salariés qui mettent à leur disposition du soutien psychologique, de l'assistance sociale, tout un tas de ressources.
Ouais. Et on le voit effectivement dans notre dernier baromètre DRH là, qui a été récemment publié, que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à maintenir un lien avec les salariés qui sont en arrêt de travail. Donc on s'interdit moins en fait cette barrière un petit peu imaginaire qu'on...
Mais un lien positif, pas quand est-ce que tu reviens.
Tout à fait, un lien positif, c'est tu nous manques, on reconnaît que tu avais une valeur dans toute la chaîne de production et tu nous manques et on a besoin de toi et on s'inquiète aussi pour toi. Donc ça aussi c'est très important de maintenir le lien et les entreprises le font de plus en plus.
Oui.
Elles sont plus nombreuses, en tous les cas 65% des DRH qu'on a interrogés nous disent le faire, donc maintenir un lien en cas d'arrêt prolongé.
Rassurer les anciennes générations aussi, souvent, alors c'est vrai qu'on a parlé des jeunes, mais les plus anciens parfois sont inquiets de la manière dont se transforme l'entreprise, du fait qu'on va chercher des nouveaux talents pour des nouvelles compétences.
Il y a plusieurs sujets en fait dans votre question, effectivement, il y a les sujets un peu d'actualité de transformation de l'entreprise qui sont au cœur d'actualité de plusieurs entreprises qui occupent bien les DRH, hein, et effectivement, donc ça, ces sujets-là aussi s'accompagnent et il faut travailler avec eux sur cet accompagnement au changement. Il y a un autre sujet également qui est important, c'est que sur les populations plus âgées, on est plus sur des problématiques de durée d'absentéisme. On va s'absenter plus longtemps et là-dessus aussi, il faut comprendre, il faut agir, il faut comprendre si la pathologie peut être évitée ou si la pathologie peut être accompagnée. Mmh. Et comment accompagner ? On voit beaucoup d'initiatives autour du cancer en entreprise.
Donc ça demande un engagement de la direction aussi à ce niveau-là.
Tout à fait. Ouais. Et il peut y avoir des problématiques qui relèvent aussi de l'ordre du salarié aidant. De plus en plus de salariés, ça touche 5 millions de
salariés. Quand on a un proche malade ou handicapé.
Et on doit s'occuper d'eux.
Mmh. Et comment, effectivement, mon entreprise me permet de le faire dans le cadre de mon activité,
et quelles sont les initiatives mises en place. On arrive au bout, mais on reparlera de ce sujet qui est très intéressant et concernant. Merci beaucoup, en tout cas, d'y avoir pris part. Noémie Marciano, directrice assurance de personnes et avantages sociaux chez WTW. Gabriel Baskin, directrice de conseil chez Stimulus. Merci d'avoir été avec nous. On file dans le labo d'Happy Boulot.
Happy Boulot, le lab.
Et comme tous les premiers week-ends du mois, c'est avec vous, Jeanne. Cette fois-ci, vous êtes partie à la recherche de plusieurs bonnes idées pour sensibiliser au burn-out.
Oui, Erwan, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on va parler de burn-out. C'est pas super joyeux, non. Mais ça concerne tout le monde.
Vous allez nous proposer, justement, nous présenter des solutions un peu positives.
Oui, je vais vous proposer tout de suite des solutions positives, hein, parce que ça concerne quand même 44% des salariés. Et pour prévenir ces symptômes, la start-up Reverto mise sur la réalité virtuelle et la vidéo 360 degrés.
Mm-hmm. Alors, exactement.
À la base, cette start-up, elle sensibilise sur tous les risques psychosociaux comme le harcèlement ou le sexisme en entreprise. Mais récemment, du coup, ils se sont penchés sur le burn-out. Alors, c'est simple, vous enfilez un casque de réalité virtuelle.
Alors, pour ceux qui nous suivent à la télévision, ils vont voir les images.
Exactement.
On enfile ce casque.
Exactement.
Qu'est-ce qui se passe après ?
Et bien, alors, pendant 7 minutes, vous avez une vidéo interactive où vous vous retrouvez dans la peau de Cécile, une manager, du coup, sous pression. Et vous pouvez ensuite vous glisser dans la peau d'autres personnages, comme son entourage professionnel ou personnel. Alors le scénario, il a été écrit avec un expert du sujet, un metteur en scène et un réalisateur VR, et c'est basé sur de vrais témoignages. Hein. Les situations sont jouées par des comédiens professionnels et bien sûr les scripts sont en amont, validés par des psychologues. Le but à l'issue de cette expérience, c'est d'à la fois provoquer l'empathie mais aussi détecter les signaux faibles qui sont liés au burn-out et comment réagir à ce genre de situation. En 2022, la start-up dit avoir sensibiliser 20 000 personnes.
30 000 personnes déjà qui ont pu bénéficier d'un accompagnement grâce à cette technologie. Mmh. Mmh. Ça, c'est la prise de conscience. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes sur le marché ?
Bah oui, parce que le burn-out, ça ne concerne pas que les salariés. Hein, ça peut concerner des acteurs. Ah Hugh Jackman, lui est un grand adepte de la méthode 85%, une méthode qu'on retrouve généralement dans les livres de développement personnel. Il vous recommande de ne pas vous donner à 100% au travail, mais seulement à 85% pour vous reposer un peu.
Et ne pas vous êtes sûr qu'on ne va pas se faire virer, du coup, si on ne travaille pas à 100%?
Non, parce qu'en fait, selon lui, parce qu'on travaille 85%, on est plus productif au lieu de se donner tout le temps à 100% et finalement s'épuiser. Il affirme, je cite, « Les athlètes d'élite savent que si vous leur dites de courir à 85% de leur capacité plutôt qu'à 100%, ils finiront par mieux performer parce qu'ils sont détendu et cette méthode est approuvée par certains psychologues.
Ah bon, donc méthode de Hugh Jackman, c'est bon, elle est validée, approuvée par les psychologues. Bon,
exactement.
Est-ce qu'on peut terminer peut-être en parlant des enfants ? Est-ce qu'on peut sensibiliser les enfants aussi au burn-out qui peut-être leur arrivera quand ils seront grands ?
Oui, alors on peut, mais alors du coup il faut quelque chose de plus ludique, des images, des couleurs. Un livre peut-être. comme celui-ci qui s'appelle la petite goutte d'eau qui s'envolait.
On va le voir dans les images.
La petite goutte d'eau, voilà, on le voit, qui s'envolait d'avoir fait déborder le vase. Alors c'est l'histoire d'une petite goutte d'eau qui travaille dans un vase et qui doit s'occuper des fleurs coupées pour qu'elles ne fanent pas. Et la petite goutte d'eau tombe de fatigue à force de s'occuper de fleurs qui fanent trop vite et qui sont trop vite remplacées. Bref, la petite goutte d'eau épuisée finira par guérir et trouver une autre étendue d'eau où elle pourra vraiment s'épanouir. Alors c'est vraiment une image en fait.
C'est une métaphore. Pour que les enfants puissent comprendre.
Pour que les enfants puissent comprendre, parce que c'est pas facile en fait d'expliquer les problèmes des adultes on est enfant. Donc voilà, c'est mignon, c'est bien fait. Il y a beaucoup d'images et c'est un livre d'Adrien Chignard qui est psychologue du travail et Vaille Nuit de Castelbajac, et vous pouvez retrouver ça aux éditions Fayard.
Merci beaucoup Jeanne pour toutes ces innovations autour du burn-out. On vous retrouve tous les premiers week-ends du mois dans le lab d'Happy Boulot. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci à Flo et Alban en régie. On espère que cette nouvelle version de l'émission vous plaît. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez réentendre, bien sûr, ou revoir les émissions en replay et en podcast. Et d'ici là, on vous souhaite d'être heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.